CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Nous devons tout d'abord préciser que la présente capsule ne contient aucun conseil juridique. Elle a été préparée avec l'aide d'étudiants et étudiantes en droit bénévole de la section Pro Bono Students Canada, PBSC, Université de Sherbrooke. Les étudiants et étudiantes de PBSC ne sont pas avocats et avocates et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. La présente capsule ne présente qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un avocat ou un avocat. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes sur les ondes de CFAQ et mon nom est Esther.
Et moi Elisabeth.
Et vous écoutez maintenant une capsule traitant des moyens de défense d'alibi et d'erreurs de droit et de fait. Ces capsules sont réalisées par 4 étudiants et étudiantes au baccalauréat en droit en collaboration avec Pro Bono. Notre équipe est composée de Étienne Madelin, Elisabeth Normand, Sarah Dumoulin et moi-même, puis nos capsules traitent du droit criminel. Bonne écoute!
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes sur les ondes de CFAQ, mon nom est Étienne.
Et moi, Sarah.
Et vous écoutez maintenant un épisode traitant de la capacité pénale. Lors des prochaines capsules, nous examinerons les moyens de défense tels que l'alibi, l'intoxication et l'erreur, entre autres. Ces capsules sont réalisées par 4 étudiants et étudiantes au baccalauréat en droit, en collaboration avec Pro Bono. Notre équipe est composée de Étienne Madelin, Esther Gravel, Elisabeth Normand et Sarah Dumoulin. Nous devons tout d'abord préciser que la présente capsule ne contient aucun conseil juridique. Elle a été préparée avec l'aide d'étudiants et d'étudiantes en droit bénévole de la section Pro Bono Students Canada, PBSC, Université de Sherbrooke. Les étudiants de PBSC ne sont pas avocats ou avocates et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. La présente capsule ne présente qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter une avocate ou un avocat. On sait tous intuitivement que ce n'est pas tout le monde qui peut ou qui devrait être trouvé coupable d'un crime. Il serait ridicule, par exemple, de faire subir un procès à un nourrisson qui ne comprend évidemment pas les gestes qu'il pose. C'est là qu'entre en jeu la capacité pénale. Si une personne a cette capacité, elle pourra subir un procès et être trouvée coupable d'un crime. Le nourrisson, évidemment, n'a pas la capacité pénale. La capsule qui suit tentera donc de délimiter exactement qui a la capacité pénale et qui en est exclu. Le premier critère pour déterminer si une personne a la capacité, c'est l'âge. Le code criminel est clair et net. Il faut avoir 12 ans au moment du crime. Un mineur de 11 ans ou moins, même très intelligent, ne pourra jamais être trouvé coupable d'une infraction criminelle. Cette exception vise à protéger les enfants qui n'ont pas la maturité pour comprendre les conséquences de leurs gestes et de savoir ce qui est bien ou mal. Et c'est logique avec le but du droit criminel. On veut punir les individus non seulement pour leurs gestes physiques, mais aussi pour leur responsabilité au niveau moral. Donc, on exclut les enfants, mais qu'en est-il, Sarah, des adolescents, les mineurs qui ont plus de 12 ans, mais moins de 18 ans?
Alors, les adolescents n'ont pas ce même bénéfice que les enfants. Ils sont présumés avoir la capacité pénale, donc ils sont toutefois assujettis à un régime distinct de celui des adultes par le biais de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. En général, cette loi est moins sévère avec les contrevenants adolescents qu'avec les adultes. Encore là, pour des raisons similaires, les adolescents manquent souvent de maturité par rapport aux adultes et on ne voudrait donc pas les punir de la même façon. Ainsi, leurs peines sont généralement plus courtes et il y a un plus grand éventail de peines à la disposition du tribunal qui lui permet de s'adapter à la situation de l'adolescent. Des exemples de peines que la Cour peut octroyer sont des travaux bénévoles, une réprimande, une absolution ou encore une ordonnance de placement et de surveillance où l'ado est privé de sa liberté, mais séparément des adultes. On se concentre donc davantage sur sa réadaptation et sa réinsertion sociale, la dissuasion n'étant pas considérée. Dans certains cas, les adolescents peuvent recevoir les mêmes peines qu'un adulte. Les régimes et la capacité peuvent donc varier en fonction de l'âge. Étienne, quel est un autre élément qui peut affecter la capacité pénale et la possibilité d'être trouvé coupable?
Et tu l'auras deviné, Sarah, les troubles mentaux peuvent constituer un moyen de défense. Si un accusé arrive à prouver qu'il était atteint d'un trouble mental au moment du crime, il ne pourra être trouvé coupable. Il aurait plutôt un verdict de non-responsabilité criminelle. Vous avez peut-être entendu parler de la célèbre affaire Guy Turcotte, où un cardiologue des Laurentides, qui tue ses deux enfants de 3 et 5 ans, reçoit un verdict de non-responsabilité criminelle lors de son premier procès, avant d'être éventuellement trouvé coupable. Avant d'analyser cette décision, Sarah, peux-tu me dire en quoi consiste un trouble mental?
Certainement. Eh bien, d'abord, le trouble mental n'est pas provoqué volontairement. Ou un accusé prend de la drogue ou de l'alcool qui mène à un crime, par exemple. Une capsule plus loin abordera cette question d'intoxication qui est bien distincte du trouble mental. Un trouble mental n'est pas non plus éphémère ou passager comme l'hystérie ou la commotion. Bref, la cause doit être interne et le risque subsistant. La maladie mentale doit, en outre, faire en sorte que l'accusé n'est pas capable de juger de la nature ou de la qualité de son acte ou de son omission, ou qu'il est incapable de savoir si l'acte ou l'omission est mauvais. Autrement dit, l'accusé ne doit pas connaître les conséquences matérielles de ses gestes ou il doit être incapable de savoir si ses gestes étaient moralement répréhensibles. Pour déterminer si un accusé est atteint d'un trouble mental, il faut comparer son état mental à celui d'une personne qui n'a pas de maladie mentale placée dans les mêmes circonstances. Par exemple, la paranoïa pourrait être une maladie mentale qui mène à un verdict de non-responsabilité criminelle. En 1994, un homme qui a tué son ami a été exonéré à cause de sa paranoïa, car il croyait, à cause de ses idées délirantes, qu'elle voulait le tuer et que c'était son seul moyen de s'en sortir. L'homme ne pouvait pas savoir que son acte était mauvais en raison de sa paranoïa. Et donc, évidemment, une personne sans maladie mentale n'aurait pas tué dans ces circonstances. Il s'agit donc d'un trouble mental en l'espèce, au sens de la loi. La psychose et la schizophrénie peuvent aussi mener à ce verdict. La psychopathie, par contre, n'est toutefois pas un motif qui peut mener à l'exonération car un psychopathe connaît les conséquences matérielles de ses agissements, ce qui est suffisant. Étienne, maintenant, peux-tu me dire comment un accusé ferait pour soulever le moyen de défense des troubles mentaux?
Oui, dans tous les cas, l'accusé est présumé ne pas avoir de troubles mentaux. C'est donc à la défense de prouver qu'il est ainsi atteint. Cette preuve implique souvent des témoins experts comme des psychiatres qui évaluent l'état mental de l'accusé. Si un accusé plaide avec succès qu'il était atteint d'un trouble mental au moment du crime, il obtiendra alors un verdict de non-responsabilité criminelle. Cela ne veut pas dire que l'accusé a été acquitté. Le verdict de non-responsabilité criminelle peut mener soit à la libération de l'accusé, avec ou sans condition, ou encore à sa détention dans un hôpital. Rappelons-nous que la liberté est un droit fondamental de notre société. Alors, priver quelqu'un de ce droit ne doit pas se faire à la légère. Autant que possible, en considérant la nécessité de protéger le public, l'accusé est remis en liberté. Si toutefois il est prouvé que ses troubles mentaux mettent en danger le public, il sera possible de le détenir dans un hôpital ou de le libérer avec des modalités à respecter. Remarquons qu'il est tout de même exceptionnel de priver une personne de sa liberté sans même qu'elle soit trouvée coupable d'un crime. Mais même dans ces cas-là, où l'accusé est gardé en hôpital, on ne peut pas l'obliger à subir un traitement. Annuellement, comme la condition de l'accusé peut évoluer, les modalités d'une détention ou d'une libération conditionnelle sont révisées. Il a alors l'opportunité de demander des changements. Donc, à la lumière de ce résumé sur les troubles mentaux, pourrait-on revenir à l'affaire Guy Turcotte, Sarah?
Oui, eh bien, rappelons qu'il avait été déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux lors de son premier procès en 2011. La défense avait plaidé avec succès que la combinaison de son trouble d'adaptation, d'une crise suicidaire et du méthanol contenu dans le lave-glace qu'il avait bu avait causé ce trouble mental. Or, comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'intoxication et les troubles mentaux sont des notions bien distinctes. L'intoxication est causée par un facteur externe et les troubles mentaux par un facteur interne. Ici, Turcotte a consommé volontairement le lave-glace, un facteur externe, ce qui se rapporte plutôt à l'intoxication. Donc, la cour d'appel ordonne la tenue d'un nouveau procès Et lors de ce procès en 2015, sans la défense de Méthanol, Turcotte devait donc tenter de prouver que son trouble d'adaptation avec l'humeur dépressive, à lui seul, était suffisant pour considérer qu'il était atteint d'un trouble mental. Cette fois-ci, le jury rejette sa demande et Turcotte est bel et bien trouvé coupable de deux chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 17 ans. Son appel a été rejeté. Cette saga a soulevé un grand intérêt populaire chez les Québécois. Plusieurs ont été choqués et ont manifesté leur mécontentement face au verdict de non-responsabilité criminelle en 2011 ou encore à la décision de la commission d'examen des troubles mentaux de remettre en liberté Guy Turcotte l'année suivante. Clairement, la foi des Québécois dans le système judiciaire a été pour le moins ébranlé. Nous espérons donc que ce topo a su clarifier cette histoire. Donc en somme, la question de la capacité pénale amène le droit criminel, encore une fois, à trouver un juste équilibre entre des objectifs parfois contraires, soit la sécurité du public d'une part, et la réhabilitation, la réinsertion sociale et la protection des droits et libertés des accusés de l'autre. Ce fut Étienne et Sarah, nous vous remercions pour votre écoute. On vous invite à rester parmi nous pour la prochaine capsule présentée par Esther et Elisabeth qui portera sur les alibis et les erreurs de droit et de fait.
Esther, est-ce que tu pourrais commencer par nous parler un petit peu du moyen de défense nommé alibi?
Certainement, Elisabeth. Tout d'abord, le terme latin « alibi » signifie « ailleurs ». En fait, en défense d'alibi, ça nie le fait pour l'accusé d'être présent sur les lieux lors de l'infraction. En d'autres mots, c'est une défense pour l'accusé qui vise à soulever un doute raisonnable quant à l'impossibilité d'avoir commis le crime reproché, car il n'était pas sur les lieux en question lors du crime dont il est accusé. Par exemple, dans l'éventualité où un de nos colocataires, que l'on va appeler Charles, par exemple, qui est accusé de s'être introduit par infraction dans une maison vers 23 heures, disons que cet événement est arrivé hier. Dans l'éventualité où la victime, soit le propriétaire de la maison, prétend qu'elle a vu Charles lorsqu'il a fui, le directeur des poursuites criminelles et pénales pourrait décider de porter des accusations contre lui en se fiant à ce témoignage. Par contre, si toi et moi étions avec Charles hier à la même heure et qu'on jouait aux cartes dans le confort de notre appartement, par exemple, cela constituerait une défense d'alibi car il ne pourrait pas être la personne qui a commis le crime, étant donné qu'il n'était pas sur les lieux de l'infraction reprochée. Dans un autre ordre d'idée, la défense d'alibi comporte deux éléments importants. En effet, elle doit être communiquée en temps opportun à la poursuite et doit être précise pour permettre aux autorités de la vérifier. Veux-tu me mentionner, Elisabeth, à quoi ça te fait penser?
Ben oui, en fait, j'imagine que cette défense va à l'encontre du droit au silence garanti par la Charte des droits et libertés, qui est en lien étroit avec la présomption d'innocence, car l'accusé, dans ce cas-ci, a l'obligation de divulguer sa défense.
En effet, Elisabeth, la défense d'alibi est une défense qui va à l'encontre du droit au silence, mais qui reste un mécanisme constitutionnel en soi. On peut donc se demander pourquoi maintenant l'accusé doit communiquer ce moyen de défense à la poursuite le plus rapidement possible.
En effet, c'est pour permettre à la poursuite de le mentionner à l'enquêteur au dossier afin que ce dernier puisse faire des vérifications nécessaires de son côté et de constater si la défense d'alibi semble être légitime ou non. En pratique, l'avocat de la défense enverra un courrier au procureur de la couronne chargé du dossier pour lui mentionner que son client ne peut être l'auteur du crime car il travaillait cette journée-là ou qu'il était en voyage avec une telle personne, par exemple. Il n'y a donc pas vraiment de forme particulière à respecter tant que ça soit communiqué en temps opportun, par l'accusé ou bien par un tiers qui est témoin de l'alibi. En conséquence, si la défense d'alibi s'avère positive pour la défense, le poursuivant peut décider de laisser tomber toutes les allégations envers l'accusé et de recommencer le processus car l'identité est inconnue. Le défaut de communiquer la défense au procureur de la couronne en temps opportun ne fera pas en sorte que la défense sera inadmissible car ça irait contre le droit à une défense pleine et entière, mais cela aura plutôt comme effet d'affaiblir la force probante de la preuve d'alibi, soit de diminuer la force ou la valeur que l'on accorde à cette preuve. De plus, le juge pourrait tirer une inférence négative quant à la crédibilité de cette défense communiquée trop tardivement, car il y aurait un risque élevé que l'alibi soit fabriqué par l'accusé.
Merci Elisabeth pour cette information très utile. Il demeure pertinent de faire la distinction entre un alibi non cru et un alibi fabriqué. En effet, lorsque l'alibi n'est pas cru par le juge des faits, cela aura comme conséquence qu'il n'y a aucune force probante et que l'alibi ne doit pas être considéré avec l'ensemble de la preuve. Ce moyen de défense sera donc rejeté. À l'inverse, lorsqu'il peut être prouvé que l'accusé a participé à sa fabrication, une inférence négative quant à sa culpabilité peut être tirée par le juge des faits, car l'accusé dans cette situation tente intentionnellement d'induire en erreur le juge.
Récemment, il y a eu un cas très médiatisé, Esther, concernant une erreur sur la personne. Peux-tu nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît?
En effet, j'imagine en fait que nos auditeurs, auditrices en doutent. C'est le cas de Mamadi Farah Camara, un homme de 31 ans qui a été accusé de tentative de meurtre sur un policier à Montréal en date du 28 janvier dernier. Cet individu ne s'est pas défendu avec une défense d'alibi, mais plutôt en acclamant que même s'il était sur les lieux du crime, il n'a pas pu commettre ce crime-là. C'est donc différent d'une défense d'alibi, mais vous pourrez comprendre qu'il y a quelques similarités entre ces deux moyens de défense. Les faits du dossier sont les suivants. Un agent, en fait, avait intercepté Mamadi car il avait manipulé son cellulaire au volant. Il voulait donc lui remettre un constat d'infraction. Alors que l'agent retournait dans son véhicule de patrouille, il a été frappé derrière la tête avec un bâton de métal. Le suspect s'est ensuite retrouvé avec l'arme de l'agent de police. L'agent a donc fui les lieux en courant pour se réfugier dans une maison et il a ensuite dit à ses collègues que le suspect était le dernier automobiliste, soit Mamadi, qui l'avait intercepté. Suite à ces événements, Mamadi aurait communiqué avec le 911 pour mentionner qu'un homme avait attaqué le policier et il aurait même décrit le suspect. Le 911 a cru que ce dernier les avait appelés pour les diriger sur une fausse piste. Le lendemain, il était accusé de tentative de meurtre avec une arme à feu. Il a été placé en détention quelques jours et risquait une très lourde peine de prison. Or, quelques jours après, une caméra du ministère des Transports a révélé la présence d'un autre véhicule et d'un autre individu sur la scène de crime. Le 3 février 2021, l'homme a été libéré des accusations qui pesaient sur lui et a quitté le palais de justice. C'est presque du jamais vu, Elisabeth, et c'est très rare qu'un accusé puisse sortir de cette façon. C'est une grande erreur des corps policiers et il est certain que je vais suivre ce dossier de près. Mamadi pourrait fortement entreprendre des poursuites contre l'État pour dommages et intérêts, et ce, avec raison pour tout ce qu'il a subi, pour rien en fait.
Oui, comme tu dis, il pourrait effectivement entreprendre des poursuites contre l'État parce que c'est une grande erreur des corps policiers. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis c'est des histoires qu'on entend très rarement. Puis comme tu dis, moi aussi, je vais suivre cette histoire de très, très près. Et maintenant que nous venons de clore le sujet l'alibi, il est maintenant pertinent, je pense, de discuter des erreurs de droit et de fait. En fait, il s'agit d'un autre moyen de défense qu'un accusé peut soulever. En général, nous savons ce que signifie faire une erreur. C'est le fait de se tromper ou encore de croire en quelque chose qui est manifestement erroné. Cependant, en droit criminel, on offre la possibilité à l'accusé de se défendre en invoquant avoir agi sous le coup d'une erreur de fait ou de droit. Commençons tout d'abord par expliquer l'erreur de fait. L'erreur de fait peut être invoquée lorsqu'une personne avait une croyance honnête et sincère d'un état de fait qui, si il avait réellement existé, l'aurait rendu innocent. Donc, c'est une défense que l'accusé va invoquer afin de démontrer que lorsqu'il a commis l'infraction, il croyait sincèrement que cette situation-là était légale, mais qu'en réalité, elle était illégale. C'est donc une croyance erronée d'un état de fait, comme on l'a mentionné. Cependant, lorsque la Cour en vient à la conclusion qu'il s'agissait d'une erreur de fait, elle n'est pas en train d'excuser ou de justifier les actes de l'accusé. Elle vient plutôt nier l'intention coupable que l'on devait avoir pour commettre l'infraction en question. En droit criminel, pour rendre un verdict de culpabilité, on exige de l'accusé qu'il ait évidemment commis l'acte en question, mais aussi qu'il y ait eu un esprit coupable. Donc, l'erreur de fait vient nier, comme on l'a dit plus tôt, cet esprit coupable que l'infraction exigeait, ce qui mènera à l'acquittement de l'accusé. Mais pourquoi, Esther, on appelle ça un moyen de défense?
C'est vrai que ça peut porter à confusion, mais on considère souvent l'erreur de fait comme un moyen de défense, car elle est généralement soulevée par l'accusé.
Oui, exactement. Puis j'ai une autre question pour toi dans le même ordre d'idée. J'ai tout juste expliqué plein de termes qui ne sont pas nécessairement faciles à comprendre. Peux-tu me donner un exemple de situation dans laquelle l'erreur de fait pourrait être invoquée?
Oui, sans problème. Prenons par exemple un cas qui peut très bien nous arriver en fait à l'une d'entre nous. Imaginons que je brise mon cellulaire et que je dois en racheter un autre le plus rapidement possible. Étant donné que je n'ai pas le temps d'aller le magasiner, je décide d'acheter un cellulaire usagé sur Kijiji. Le vendeur vient me porter en main propre le téléphone le jour même et je lui donne la somme demandée, soit 500 $. Si deux semaines plus tard, je suis accusée de recel car le cellulaire que j'ai acheté est en réalité volé, je pourrais invoquer l'erreur de fait en disant que lorsque je l'ai acheté, j'avais aucune idée que c'était un cellulaire volé. Je ne l'aurais donc pas acheté si j'avais su qu'il était volé. C'était le vendeur dans cet exemple qui l'avait volé. Donc, je pourrais invoquer l'erreur de fait car j'avais une croyance sincère et honnête que le cellulaire n'était pas volé et à ce moment-là, ce serait au tribunal d'essayer de déterminer ma réelle intention lorsque j'ai acheté le cellulaire.
Oui, puis ça fait du sens parce qu'on pourrait difficilement voir comment quelqu'un pourrait être accusé en n'ayant rien fait sauf acheter un cellulaire sur Kijiji, par exemple. Puis j'aimerais mentionner aussi que si vous pensiez qu'il était possible d'invoquer l'erreur de fait lorsqu'on est coupable d'agression sexuelle, eh bien, vous avez tort. Il est important de mentionner qu'on ne peut pas invoquer l'erreur de fait pour tous les types d'infractions. Par exemple, un accusé ne peut pas invoquer l'erreur de fait sur le consentement de la victime. Sa défense ne pourrait pas consister à dire « Ah ben, je pensais qu'elle voulait ». Nous avons consacré une capsule complètement entière sur l'agression sexuelle, donc ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais nous voulons simplement mentionner qu'il est impossible pour un accusé d'invoquer l'erreur de fait en disant qu'il croyait sincèrement que la victime était consentante. Il doit plutôt avoir pris les mesures nécessaires pour être certain que celle-ci l'était réellement.
Passons maintenant au deuxième type d'erreur, soit l'erreur de droit. En fait, on va l'élaborer vraiment très rapidement, mais en fait, l'erreur de droit, c'est lorsqu'un accusé ignore que l'acte qu'il commettait était interdit. En droit criminel canadien, il y a le principe fondamental mentionnant que nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, vous aurez compris qu'il est impossible d'être acquitté en disant « je ne savais pas que c'était illégal » ou encore « ah, je pensais que j'avais le droit ». C'est pourquoi, généralement, l'erreur de droit ne peut pas excuser l'acte commis.
Et voilà, c'est ce qui conclut notre capsule sur l'alibi et les erreurs comme moyen de défense. Restez à l'écoute pour connaître d'autres moyens de défense, soit la légitime défense, la nécessité et la contrainte. C'était Elisabeth
et Esther,
et nous vous remercions.
Merci.
Bonjour, cher public. Vous êtes présentement sur les ondes de CFAQ. Mon nom est Étienne.
Et moi, Sarah.
Nous vous retrouvons afin de vous parler des moyens de défense normatifs. Nous allons donc traiter de la légitime défense, de la contrainte, ainsi que de la défense de nécessité. Nos capsules sont réalisées par 4 étudiants et étudiantes au baccalauréat en droit, en collaboration avec Pro Bono. Notre équipe est composée de Étienne Madelin, Esther Gravel, Elisabeth Normand et Sarah Dumoulin, et nos capsules traitent du droit criminel. Nous devons tout d'abord préciser que la présente capsule ne contient aucun conseil juridique. Elle a été préparée avec l'aide d'étudiants et d'étudiantes en droit bénévole de la section Pro Bono Students Canada, Université de Sherbrooke. Les étudiants et étudiantes de PBSC ne sont pas avocats ou avocates et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. La présente capsule ne présente qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un avocat ou une avocate.
Commençons d'abord par mentionner que ces moyens de défense ne servent pas à nier l'acte commis ou l'intention de commettre cet acte. L'élément matériel et l'élément mental ne sont donc pas contredits. Ce sont néanmoins des moyens utilisés afin d'excuser ou de justifier un acte qui aurait été considéré comme fautif dans d'autres circonstances. On part donc de l'idée que toute personne censée aurait agi sensiblement de la même manière et aurait aussi commis une telle infraction si elle était confrontée aux mêmes circonstances exceptionnelles. C'est une sorte de concession à la nature humaine. Maintenant, il faut s'attarder au fonctionnement de ces principaux moyens de défense afin de bien les cerner et de comprendre dans quel contexte ils peuvent être soulevés.
En effet, Sarah, la légitime défense, tout comme la défense de contrainte et de nécessité, comporte certaines similitudes. Lorsqu'on se retrouve en présence de celle-ci, on suppose que l'individu était placé dans une situation dangereuse et où il n'avait pas d'autre choix que de commettre un acte illégal. Il reviendra donc à la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé ne se retrouvait pas dans un état de légitime défense, de nécessité ou de contrainte. L'accusé n'a qu'à soulever un doute raisonnable à ce sujet, autrement dit. Dans l'éventualité où un de ces moyens est prouvé, cela permet l'acquittement.
Très bien. Commençons donc avec la légitime défense. Ce moyen, assez bien connu, intervient lorsqu'un individu a des motifs raisonnables de croire que la force est employée contre elle ou une autre personne et qu'il riposte en utilisant également la force dans le but de se protéger lui-même ou de protéger autrui. Ainsi, la violence est alors retournée contre celui qui l'a commencé. Donnons deux exemples très simples. Premièrement, je me balade dans la rue tard le soir et tout d'un coup, un inconnu m'attaque et tente, selon moi, de me faire du mal. Pour tenter de me libérer, je n'hésite pas à le frapper et à m'enfuir en courant dès que je peux. Il s'agit ici de légitime défense. Deuxièmement, je marche avec mon ami en revenant de l'école et il se fait attaquer par deux garçons plus vieux, dont un qui a en sa possession une arme blanche. Pour le défendre, je donne un gros coup de poing à l'un d'entre eux et une jambette à l'autre. Il s'agit également de légitime défense. Si jamais des accusations sont portées contre moi, je pourrais plaider ce moyen de défense pour ces deux situations. Le juge devra considérer certains facteurs tels que la nature de la force ou la menace utilisée, l'historique entre les parties, l'âge et les circonstances. Dans les deux exemples donnés, la force que j'utilise pour me défendre ou protéger mon ami était assez raisonnable. Ma réaction n'était pas disproportionnée. On suppose aussi qu'il n'y a aucun historique entre moi et ses agresseurs. Je risque donc fortement d'être acquitté.
Donc, le juge considéra l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'individu se retrouvait et s'assura d'une certaine proportionnalité entre sa situation et ses agissements.
C'est exact, Étienne. Le critère de la proportionnalité est très important. Si on croit pour des motifs raisonnables que la force sera employée contre nous et qu'on riposte dans le but de se défendre, encore faut-il être raisonnable lorsqu'on retourne la violence contre notre présumé agresseur. L'expression « ne tue pas une mouche avec un canon » est de mise et illustre assez graphiquement l'enjeu ici. On ne peut donc pas agir de manière totalement disproportionnée pour se protéger contre une force. Par exemple, si quelqu'un m'attaque à main nue sans utiliser aucune arme et que, dans le but de me défendre, j'utilise une arme à feu en tirant 6 coups de feu sur lui, on ne peut pas dire que j'ai employé de manière raisonnable la force. Et ici, c'est une situation où la violence retournée contre l'agresseur est totalement exagérée. Or, si un expert des arts martiaux attaque une vieille dame, cette dernière serait justifiée d'utiliser une arme. Donc, il faut retenir que chaque cas est un cas d'espèce qui mérite d'être analysé. Poursuivons maintenant avec la défense de nécessité. Cette situation apparaît lorsqu'un danger imminent survient et qu'il n'y a pas d'autre solution légale à disposition. Pour illustrer le tout, prenons l'exemple d'un randonneur très aventureux qui se perd en forêt dans le rude hiver canadien. Tentant de retrouver son chemin tant bien que mal, il a de plus en plus faim, de plus en plus soif et de plus en plus froid. Ayant épuisé toutes ses réserves d'eau, de nourriture et n'ayant plus de vêtements secs à porter, sa situation est assez critique. Il finit miraculeusement par trouver un petit chalet isolé, mais malheureusement, il semble n'y avoir personne à l'intérieur. Il décide donc d'y entrer par effraction en brisant une vitre. Et si on voit qu'il y a un danger réel pour sa survie et qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix que d'y entrer, briser une fenêtre pour sauver sa propre vie ne semble pas être un acte disproportionné et exagéré dans la présente situation, tout compte fait.
Mais Sarah, si jamais un vendeur de drogue a des démêlés avec l'organisation de crimes organisée dont il est membre et se voit dans la nécessité de commettre certaines infractions afin de préserver sa propre sécurité, peut-il bénéficier de la défense de nécessité en plaidant qu'il n'avait pas d'autre choix que de commettre ces actes illégaux?
Eh bien non, Étienne, car en l'espèce, le vendeur de drogue a lui-même rejoint les rangs de cette organisation criminelle. La question n'est donc pas de savoir si la personne a réagi légalement ou illégalement, mais bien de savoir si elle s'est volontairement mise dans cette situation. Dans cet exemple, le vendeur a de son plein gré adhéré au crime organisé. Il peut donc s'attendre à ce qu'il soit confronté à de telles situations où il devra accomplir des infractions. C'est assez prévisible. Pour finir, abordons la défense de contrainte. Celle-ci concerne souvent les cas où quelqu'un reçoit des menaces de mort ou des menaces de porter sérieusement atteinte à son intégrité physique ou à celle d'un proche, par exemple. La personne visée par la contrainte doit avoir des motifs sérieux de croire que ces menaces seront exécutées si elle n'effectue pas ce qui lui est demandé. Par exemple, si un jeune homme innocent n'ayant pas aucun rapport avec aucune organisation criminelle se fait remarquer par deux trafiquants qui désirent se servir de lui afin de transporter de la drogue à leur place. Il le menace donc de kidnapper et de torturer sa petite sœur, étant donné qu'ils savent exactement quel chemin elle emprunte en rentrant de l'école s'il ne leur obéit pas en transportant une quantité de drogue qu'ils doivent livrer à un certain endroit. Dans un tel cas, si le jeune homme se fait prendre avec cette quantité de drogue, il pourra plaider la défense de contrainte. Les critères étant les mêmes que la défense de nécessité, il faut qu'il y ait un danger imminent. En l'espèce, s'il n'effectue pas la demande des trafiquants à l'instant, il menace de blesser sérieusement sa petite sœur et il croit en effet que ces menaces seront mises à exécution en cas de désobéissance. Il y a une absence de solution légale et une proportionnalité entre le mal évité et le mal causé. Il devra soulever un doute raisonnable à ce sujet.
De plus, lorsqu'on évoque la défense de contrainte, on ne peut pas participer à aucun complot ou organisation qui ferait en sorte qu'on est soumis à ce genre de menace. Si jamais le jeune homme avait été parti à un groupe d'organisation criminelle, cela aurait nettement changé la donne. Il risquerait alors de ne pas pouvoir bénéficier de ses moyens de défense, car il se serait lui-même exposé à ce genre de risque. Il y a donc une certaine cohérence. Notons toutefois qu'il y a certaines infractions exclues pour ce moyen de défense. En effet, le meurtre, la trahison ou encore la piraterie ne peuvent être justifiés ou pardonnés à l'aide de la défense de contrainte.
En conclusion, ces trois moyens de défense laissent place à la reconnaissance de la nature humaine. Il est prévisible et raisonnable qu'en cas de danger imminent, notre instinct de survie nous pousse à agir d'une manière afin de se protéger ou de protéger des êtres qui nous sont chers. Dans la mesure où ces moyens sont utilisés correctement et proportionnellement surtout, ils peuvent s'avérer très avantageux, étant donné qu'ils peuvent mener à un acquittement. En espérant avoir pu vous éclairer au sujet des moyens de défense, restez à l'écoute, car nous traiterons prochainement des requêtes basées sur la charte dans notre prochaine capsule. C'était Sarah Étienne. Merci pour votre écoute et au...
Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes sur les ondes de CFAQ. Mon nom est Elisabeth.
Et moi, Esther.
Et vous écoutez maintenant une capsule traitant des requêtes basées sur la charte. Ces capsules traitent du droit criminel et sont réalisées par 4 étudiants et étudiantes au baccalauréat en droit en collaboration avec Pro Bono. Une équipe composée de Étienne Madelin, Esther Gravel, Sarah Dumoulin et moi-même. En espérant que vous appreniez plusieurs choses, bonne écoute!
Comme vous le savez déjà, la Charte canadienne des droits et libertés protège les droits fondamentaux de chaque Canadien et Canadienne. Plus précisément, en droit criminel canadien, cette charte protège entre autres le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de chaque personne. Ainsi, il serait contraire à notre Constitution d'extrader un fugitif vers un pays où il risque la peine de mort, puisque la peine de mort n'est pas reconnue ici au Canada. De plus, le droit au silence et le droit à une défense pleine et entière sont notamment des droits protégés par la Charte. Si jamais ce sont des notions qui vous intéressent, vous pouvez aller voir nos capsules antérieures dans lesquelles nous abordons justement le droit au silence. Notons aussi que la Charte protège chaque individu contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Lorsqu'une personne devient un inculpé au sens de la loi, donc une dénonciation relative ou un acte d'accusation à l'infraction qu'on lui reproche est déposé, il a le droit d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche, d'être jugé dans un délai raisonnable, de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même et d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable par un tribunal. Tu comprendrais, Elisabeth, qu'on pourrait continuer à discuter des droits que protège la Charte pendant encore un moment. Or, il est maintenant important de parler des requêtes basées sur cette charte qui constitue en soi un moyen de défense pour l'accusé.
En effet, la charte reconnaît que toute personne victime d'une violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la charte peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir une réparation. Il est également possible de demander l'exclusion de la preuve obtenue en violation des droits et libertés de l'accusé. Ainsi, une requête basée sur la charte s'effectuera normalement lors d'un voir dire qui est en soi un mini-procès dans le procès pour trancher cette question d'admissibilité. S'il y a un jury, les jurés devront sortir de la salle d'audience car pendant cette requête, ce ne seront que la défense, le juge et le procureur de la couronne qui seront présents.
À quoi sert à l'accusé d'effectuer un recours en cas d'atteinte aux droits et libertés?
Eh bien, cela va permettre au juge d'émettre des remèdes variés. Le juge effectue selon lui ce qui sera le plus convenable. Il pourrait donc annoncer l'arrêt des procédures ou même une réduction de la peine. Par contre, ce que l'accusé invoquera le plus souvent est l'arrêt des procédures. Ce qu'il faut comprendre de ce principe-là globalement, c'est que théoriquement, ça n'équivaut pas à un acquittement. C'est plutôt une impossibilité permanente de poursuivre l'accusé ordonnée par le juge à titre de remède à la violation des droits et libertés de l'accusé. Donnons quelques exemples pour que cela soit plus concret pour vous, cher public, car nous savons qu'il s'agit d'un principe assez théorique. Cette requête basée sur la charte pourrait être invoquée dans un cas où une confession est obtenue en violation du droit à l'avocat ou, par exemple, dans le non-respect de la confidentialité au droit à l'avocat. Ça serait donc à l'encontre d'un droit à une défense pleine et entière, qui est un droit prévu par la charte. C'est pourquoi une telle requête basée sur la charte serait parfaitement appropriée dans ces circonstances.
Toujours en vertu d'une défense pleine et entière, il serait possible pour l'accusé de présenter une requête pour défaut de divulgation par la couronne. En effet, la poursuite est tenue de divulguer à l'autre partie tous les renseignements pertinents, qu'ils soient inculpatoires ou disculpatoires, et que la poursuite ait l'intention de les présenter ou non lors du procès.
C'est connu, l'accusé doit savoir de quoi il est accusé afin de pouvoir se défendre entièrement, et c'est tout à fait logique. Imaginons-nous, Esther, par exemple, qu'un individu est accusé de meurtre. Il arrive avec son avocat à la cour la journée du procès et la poursuite apprend un nouvel élément de preuve qui pourrait tendre fortement à disculper l'accusé. Alors que la poursuite détenait cette information depuis longtemps, elle l'annonce à la défense le jour du procès comme une surprise. Il est certain que l'avocat de la défense pourrait demander une remise de procès pour se préparer suite à cette preuve disculpatoire, mais si cette absence de divulgation totale est présente et elle vient vraiment changer la théorie de la cause de la défense, l'avocat de la défense pourrait présenter une requête basée sur la charte, étant donné que le droit de son client à une défense pleine et entière a été bafoué.
OK, donc pour éclairer un petit peu les auditeurs et les auditrices par rapport à tout ça, cela veut dire que ce que l'on voit régulièrement dans les séries ou les films quand le poursuivant arrive avec une preuve dont l'autre partie n'avait jamais entendu parler, ça peut pas vraiment se produire comme ça en réalité.
Exactement, Esther, parce qu'on a l'impression qu'on peut apporter n'importe quelle preuve à n'importe quel moment pendant le procès comme une surprise, mais en fait, c'est totalement faux.
Pour revenir au sujet de cette capsule, il est primordial de parler de l'arrêt Jordan, une décision électrochoc en matière de droit criminel qui a été rendue en 2016 par la Cour suprême du Canada. En effet, comme mentionné au début de la capsule, la charte garantit à tout inculpé le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Dans ce présent cas, il était question de Richard Jordan, inculpé en décembre 2008 en Colombie-Britannique pour une affaire de drogue. Il avait été trouvé coupable seulement en février 2013, donc presque 5 ans plus tard. Ses avocats sont allés en appel de la décision et ils se sont rendus jusqu'à la Cour suprême car ils prétendaient que le délai de 50 mois était déraisonnable. Ceux-ci ont eu gain de cause car le 8 juillet 2016, la condamnation de Jordan a été invalidée. Il a finalement été acquitté près de 7 ans après l'inculpation. Grâce à l'arrêt Jordan, la Cour suprême a établi un plafond en matière de délai. Si le délai en fait du plafond est excédé, on présumera qu'il est déraisonnable. Dans ce cas, ce sera à la poursuite de réfuter cette présomption en démontrant que le délai a été raisonnable vu l'existence de circonstances exceptionnelles.
OK Esther, mais dans quel cas d'abord on peut parler de circonstances exceptionnelles?
En fait, c'est simple, Elisabeth, on pourrait penser à la situation pandémique actuelle qui a eu comme conséquence de retarder des milliers de procès au Québec. Même au Canada aussi.
Oui, c'est ça, exactement. Je vois ce que tu veux dire. Et quels sont les délais plafonds dont tu me parlais qui ne sont à pas dépasser?
Pour les crimes objectivement moins graves, le plafond est de 18 mois et pour les crimes plus graves, le délai est de 30 mois. On dit donc que cet arrêt a renversé le droit criminel car cela demande au DPCP d'être davantage proactif et de respecter certains délais du dépôt jusqu'à la fin des procédures.
C'est d'ailleurs pour cette raison que les procureurs de la Couronne s'assurent d'avoir un dossier complet avec leur complément d'enquête demandé préalablement aux enquêteurs avant de porter des accusations afin d'être certain de respecter les délais prévus par Jordan. Bref, les longs procès criminels causent à toutes les personnes concernées de la souffrance et de la frustration. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est donc protégé par la charte, entre autres, pour éviter la tension, l'angoisse et le stress prolongé résultant du climat de suspicion que suscitent des procédures criminelles. C'est justement grâce à cette requête basée sur la charte que M. Jordan a pu être acquitté après 7 ans.
Dans un autre ordre d'idée, l'accusé pourra se défendre en faisant une requête charte afin d'exclure de la preuve en vertu d'une disposition précise de la charte.
C'est très fréquent dans les salles de cour. En effet, l'accusé pourra par exemple mentionner que les policiers, lors de son arrestation, ont violé le droit à son avocat dans les plus brefs délais car ils ont par exemple oublié de l'informer à temps. Ou encore, l'accusé pourrait invoquer le fait qu'il a été arrêté sans motif. Une telle requête pourrait aussi être invoquée car les policiers ont effectué une fouille sans mandat autorisé par un juge. On dira donc que cette fouille était abusive. Une fois qu'il est établi qu'il y a une violation des droits protégés par la charte, qu'arrive-t-il, Esther?
C'est une très bonne question, Elisabeth. En fait, c'est le juge qui va déterminer si, suite à la violation, il admet tout de même la preuve ou si celle-ci sera exclue du dossier. Le juge va surtout se demander si, en laissant une telle preuve au dossier, il y a déconsidération de l'administration de la justice. C'est un terme assez complexe, mais en fait, le juge va regarder, premièrement, la gravité de la conduite attentatoire de l'État, ce qui veut dire qu'il regardera les faits que les policiers ont posés et surtout si ce qu'ils ont fait était si grave que l'on entend. Il s'agit donc de regarder la gravité de la conduite des policiers. Plus leur geste était grave, plus le juge penchera pour l'exclusion de la preuve qui en résulte. Deuxièmement, le juge regardera l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la charte.
Qu'est-ce que cela signifie?
En bref, on se demandera les conséquences qu'auront cette preuve sur l'accusé. Par exemple, lorsque les policiers arrêtent quelqu'un sans l'informer de son droit à l'avocat, il s'agit d'une violation à un droit garanti par la charte et cette violation risque d'avoir un grand effet préjudiciable sur l'accusé, car cela influencera sa décision de parler ou non aux policiers. Dans un cas comme celui-ci, on dira alors qu'il y a déconsidération de l'administration de la justice et donc généralement, il y aura exclusion de la preuve résultant de ce fait.
Puis j'imagine que c'est la même chose lorsqu'un policier entre chez quelqu'un sans obtenir le consentement du propriétaire ou d'un mandat du juge, parce que cela aura souvent pour effet de déconsidérer l'administration de la justice, c'est ça?
Effectivement, car il s'agira d'une grande atteinte à la vie privée, soit un droit protégé par notre charte, et cette violation pourrait s'avérer être une grande atteinte au droit de l'accusé. Bref, lors du deuxième critère, on regardera les incidences de la violation sur l'accusé. Troisièmement, afin de voir si la preuve sera exclue ou non, le juge regardera l'intérêt de la société afin à ce que l'affaire soit jugée au fond, en fait. Ce critère consiste à regarder la qualité de la preuve présentée. C'est de savoir si la recherche de la vérité est mieux servie par l'utilisation ou l'exclusion de la preuve en contrevenant au droit de l'accusé. Le juge regardera les conséquences négatives de ne pas prendre la preuve, mais aussi de prendre une preuve qui a été obtenue illégalement. On se demanderait aussi si cette preuve est la seule que détient le ministère public. Si oui, habituellement, elle sera permise.
Donc, corrige-moi si je me trompe, Esther, mais dans le fond, s'il y a une preuve qui a été obtenue en violation avec un droit protégé par la charte, le juge devrait regarder l'ensemble de ces trois critères afin de déterminer s'il admet tout de même ou non la preuve, c'est ça?
Oui, en fait, tu as vraiment bien compris. Le juge est tout de même celui qui décidera si on inclut ou non la preuve en faisant un exercice de pondération entre les trois critères.
OK, je comprends parce que moi, comment je l'avais vu, je pensais vraiment que aussitôt que la preuve était obtenue en violation d'un droit protégé par la charte, ben on excluait la preuve. Mais là, comme tu me confirmes que c'est vraiment au juge de venir voir l'ensemble des trois critères, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un sujet qui devrait être plus abordé, je le crois.
Oui, je suis vraiment d'accord. Puis en fait... C'est vraiment malheureux, mais c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on pourrait vraiment faire en sorte que cette capsule dure une heure. Mais c'est pourquoi nous vous remercions d'avoir été à l'écoute, cher public. Donc, c'était Esther
et Elisabeth du réseau d'étudiants Pro Bono. Restez à l'écoute pour notre prochaine capsule dans laquelle moi et Esther traiterons du moyen de défense de l'un.
Vous êtes sur les ondes de CFAQ. Mon nom est Esther.
Et moi, Elisabeth.
Et vous écoutez maintenant un épisode traitant de la défense d'intoxication. Ces capsules sont réalisées par 4 étudiants et étudiantes au baccalauréat en droit en collaboration avec Pro Bono. Notre équipe est composée de Étienne Madelin, Elisabeth Normand, Sarah Dumoulin et moi-même. Il est tout d'abord pertinent de comprendre, cher public, que la défense d'intoxication est une défense qui peut viser à remettre en cause l'intention de l'accusé ou alors sa capacité à contrôler ses gestes physiquement compte tenu de sa consommation d'alcool ou de drogue. La possibilité de soulever une défense d'intoxication dépendra de plusieurs facteurs, dont le niveau d'intoxication de l'accusé, le type de crime dont il est accusé et le caractère volontaire ou non de la consommation. Nous aborderons tour à tour en fait ces facteurs. Il existe 3 niveaux d'intoxication qui nécessitent d'être connus. Il existe donc en droit criminel l'intoxication modérée, l'intoxication avancée et l'intoxication extrême.
En ce qui concerne l'intoxication modérée, soit la première que nous allons traiter, elle se caractérise par un relâchement des inhibitions et par conséquent, la personne a des comportements qui s'éloignent de la norme sociale. La personne légèrement intoxiquée est tout de même consciente des actes qu'elle pose. Ainsi, dans le cadre d'une intoxication modérée, un individu ne peut soulever comme défense qu'elle était intoxiquée car elle reste consciente des actes qu'elle pose. Prenons par exemple lors des 5 à 7 à l'université, soit les fameux jeudis soirs, si on prend un nom fictif, par exemple Jade. Si cette étudiante boit 3 bières, celle-ci va probablement ressentir l'effet de l'alcool et être tipsy. Or, si elle a des tendances violentes, elle sera plus susceptible d'y succomber, mais va tout de même rester consciente là, de ce qu'elle fait. Ainsi, si elle frappe une autre étudiante pour une histoire de triangle amoureux, elle ne pourra pas soulever qu'elle était intoxiquée au moment où elle va passer en cours. On ne peut donc comprendre que l'intoxication modérée ne constitue jamais une défense valable en droit criminel.
Dans un autre ordre d'idée, en ce qui concerne l'intoxication avancée, cela aurait pour effet de créer une grande confusion mentale chez l'individu et donc d'être incapable de prévoir les conséquences de ses actes. Il peut donc être complexe pour lui d'accomplir des tâches simples et quotidiennes. L'alcool ou les drogues dans ce cas-ci feraient en sorte que les facultés responsables du jugement cessent de fonctionner convenablement. Prenons encore le cas de Jade. Si elle a continué de boire plusieurs bières durant la soirée, en plus de quelques shooters, et qu'elle a de la difficulté à trouver la bonne clé dans son appartement, qu'elle exprime une certaine confusion mentale, on pourrait dire qu'elle se retrouve dans cette catégorie d'intoxication. Par conséquent, pour tous les crimes qui requièrent un élément mental plus avancé chez l'accusé, comme le vol par exemple, Jade pourrait se défendre d'avoir commis un vol chez son voisin en mentionnant qu'elle était intoxiquée d'une façon avancée. Cela aurait pour effet, en fait, qu'elle soit acquittée si elle réussit à soulever un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits. Finalement, en ce qui concerne le dernier degré d'intoxication, on parle d'intoxication extrême où on peut voir chez l'individu un état de conscience diminué. On va dire que l'individu cesse d'agir de façon volontaire au sens physique et qu'il frôle même l'état de coma ou encore l'état somnambulisme.
On va même dire dans certains cas qu'il agit dans un état d'automatisme. Cette défense est recevable dans certains cas, mais surtout lors des crimes non violents. Il sera donc possible de l'invoquer pour toutes sortes d'infractions car l'état d'intoxication était à un point tel que l'accusé était incapable d'agir de manière volontaire physiquement et psychologiquement. Cependant, l'exception est que ce moyen de défense ne s'applique jamais pour les infractions qui comportent une atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un. Donc, ce principe limite la défense d'intoxication volontaire comme moyen de défense lorsqu'une personne est accusée de crimes touchant l'atteinte ou la menace de l'intégrité physique ou toute autre forme de voie de fait. On peut penser dans ces cas-là aux crimes sexuels.
En effet, au début de cette diffusion, Étienne et Sarah ont parlé des troubles mentaux et de l'histoire de Guy Turcotte. C'est pourquoi nous n'aborderons pas l'histoire en détail, mais brièvement, celui-ci avait été accusé d'avoir poignardé ses deux enfants de 3 et 5 ans dans la nuit, ce qui leur a coûté malheureusement la vie. Dans cette affaire, certains se sont demandé si Guy Turcotte aurait pu invoquer l'intoxication volontaire, étant donné que nous savons que celui-ci avait ingurgité du liquide à lave-glace afin de mettre fin à ses jours, juste avant d'avoir tué ses deux enfants. En effet, dans ce procès, on aurait pu invoquer l'intoxication volontaire afin de nier l'intention de M. Turcotte lors de l'infraction. Cependant, cela aurait simplement eu pour effet de réduire l'accusation de meurtre à une accusation d'homicide involontaire coupable, ce qui aurait tout de même conduit M. Turcotte à être emprisonné.
Pour ce qui est de l'intoxication involontaire, on parle complètement d'autre chose. Ici, on parle plus de situations où un individu consomme, sans le vouloir, une substance intoxicante. Par exemple, si quelqu'un met une drogue assez puissante, telle que le GHB dans le verre de Jade au 5 à 7, sans qu'elle s'en rende compte et que par la suite, celle-ci commet l'infraction de vol, elle pourrait plaider l'intoxication involontaire et elle aurait de grandes chances de succès étant donné son état d'intoxication avancé, car dans l'état où elle était, ça l'empêchait d'avoir l'intention coupable requise pour cette infraction. Prenons d'autres exemples encore plus anodins. Si un travailleur inhale sans le savoir des substances chimiques à son travail et lorsqu'il rentre chez lui après sa journée de travail, il se fait intercepter et qu'il se fait accuser pour avoir conduit avec les facultés affaiblies, ce dernier peut soulever ce moyen de défense. Un autre exemple serait si une personne prend des médicaments pour la première fois et qu'elle n'a pas reçu d'indication ou de contre-indication ni de liste d'effets secondaires possibles pour la prise de celui-ci et qu'elle commet une infraction, celle-ci pourra aussi bénéficier de la défense d'intoxication involontaire car elle ne connaissait pas les effets intoxicants de cette substance et elle n'avait aucune idée qu'elle allait réagir de la sorte. Lorsque la défense d'intoxication involontaire est soulevée, le juge va chercher à savoir si la personne connaissait ou devait raisonnablement connaître les effets intoxicants de la substance absorbée. On observera également le degré d'intoxication pour voir s'il permet de conclure à un doute raisonnable quant à l'aliment mental de l'infraction d'intention spécifique ou générale.
Dans un autre ordre d'idée, en fait, l'arrêt R contre Davio peut nous servir d'exemple pour l'intoxication. Dans cette affaire, un homme avait consommé une grande quantité d'alcool et agissant sous le coup d'un blackout, il a agressé sexuellement une femme de 65 ans dans son logement. Évidemment, il avait avalé l'alcool là, volontairement. Il a par la suite quitté la maison vers 4 heures du matin. L'accusé nie avoir commis l'infraction et ne se souvient pas des événements de la nuit. La cour a conclu que l'accusé, dans l'état de blackout, avait perdu contact avec la réalité et que son cerveau avait cessé de fonctionner normalement. Il n'avait aucune conscience de ses actes. Il s'agit donc d'un cas d'intoxication extrême. Comme mentionné plus haut, l'intoxication extrême permet à l'accusé de prouver qu'il n'avait pas l'intention de poser les gestes qu'il avait posés, ici d'avoir d'agresser sexuellement une personne. L'accusé peut même nier que son geste était volontaire sur le plan physique. La Cour suprême a donc ordonné la tenue d'un nouveau procès dans cette affaire. Par contre, suite à cet arrêt, le Parlement a agi afin de mettre en place l'article 33.1 du Code criminel juste un an plus tard afin d'exclure la défense de l'intoxication pour les infractions qui portent atteinte à l'intégrité physique comme l'agression sexuelle. On peut donc comprendre, Elisabeth, que l'intoxication extrême ne peut désormais jamais être invoquée pour des infractions reliées à l'intégrité physique.
Et voilà, nous concluons sur cela pour notre dernière capsule de cette semaine. Soyez des nôtres lors de notre prochaine diffusion qui sera très, très, très pertinente. Il s'agira de notre dernière capsule et nous aurons 4 experts en droit criminel qui viendront nous parler, entre autres, de la pauvreté, des inégalités sociales, des avocats de l'aide juridique, des personnes ayant des problèmes de santé mentale, de la torture, etc. Ce sont quatre juristes qui ont généreusement accepté de venir discuter avec nous et nous vous promettons que cela risque fort bien d'être intéressant.
C'était Esther
et Elisabeth et nous vous remercions encore une fois.
Merci.